Chapitre 4. Deux mois plus tard. Tous les matins depuis 10 jours, lorsque je descends de ma chambre à la cuisine de cette maison bien trop vaste pour moi, j'ai une boule de stress logée au fond de la gorge. C'est idiot. Je sais bien que mes chances d'être convoqué pour la suite du recrutement de l'Agence spatiale européenne sont aussi minces que ma ressemblance avec Julia Roberts. Il y a 2 mois, rien de tout cela n'existait. Et aujourd'hui, cette histoire d'espace a pris beaucoup de place dans ma tête. Trop, sans doute. J'ai du mal à me reconnaître. Ce qui me plonge dans le plus grand désarroi, mais satisfait Bintou.
On le savait bien que ça te flanquerait un bon coup de pied au derrière, cette ambition spatiale. Tu ne sais pas faire les choses à moitié, on t'a bien eu.
Le pire, c'est qu'elle a raison. Il m'a fallu quelques jours après l'épisode de la clé USB pour me décider. J'ai longuement discuté avec Val et Neil. Je crois avoir trouvé les mots justes pour les remercier. Et j'ai promis de faire mon possible pour honorer la promesse faite à Michael. J'ai commencé à réfléchir à la lettre de motivation, et très vite, je me suis surprise à penser « Quitte à envoyer un dossier, autant qu'il soit bon, et surtout qu'il soit vrai. » Alors je me suis lancée dans une sorte de bilan comptable de ma vie. Évidemment, je n'ai pas conservé mes réflexions les plus intimes, mais dans la version écrite pour moi-même, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Il a été question de mes choix, de mes enfants, de ma carrière, de mes blessures, de mes ambitions enfouies, de ma mère, de mon père. Je n'ai jamais eu aucun doute sur l'amour que me portait mon père. Il a été formidable. Et je crois qu'il a mis dans mon éducation tout ce qu'il aurait aimé recevoir de ses parents, disparus bien avant ma naissance. Mais tout au long de mon enfance et de mon adolescence, j'ai éprouvé envers lui une sorte de culpabilité du survivant, comme si je devais tout faire pour compenser la mort de ma mère. Je me suis efforcée de lui rendre la vie simple, d'éviter les zones de turbulence. J'ai donc été une enfant exemplaire, une élève assidue, avec une année d'avance scolairement et des résultats toujours excellents. Mon père a fait de son mieux et je n'ai jamais manqué de rien. Mais entre son bar et ses conquêtes féminines interchangeables, dont la valse incessante était sans doute le meilleur rempart contre le remplacement de ma mère dans son cœur, j'étais souvent seule. Seule dans notre petit appartement, ou bien seule enfant au milieu du brouhaha du bistrot des copains, cet établissement que mon père a géré pendant plus de 30 ans. Mon père me laissait des libertés parfois incongrues pour mon âge, mais je n'en profitais pas. J'étudiais et lisais beaucoup. Je rêvais passionnément. Et puis vers l'âge de 14 ans, j'ai découvert une série de films où tout semblait possible. Indiana Jones, bien sûr, mais surtout À la poursuite du diamant vert, le plus marquant. Dans ce film de 1984 avec Kathleen Turner et Michael Douglas, une romancière se trouve embarquée à son corps défendant dans une chasse au trésor aussi périlleuse que jubilatoire et se révèle une aventurière hors pair. Cette histoire a agi comme un détonateur, révélant en moi des désirs d'exploration. Mon père m'ayant toujours encouragée à oser, j'ai donc un beau matin décidé de m'y mettre. Il n'imaginait pas à quel point. À 16 ans, bac en poche, la discrète jeune fille a décidé de se lancer dans des activités de plus en plus extrêmes. Escalade, plongée, spéléologie, apnée, parachutisme. Je les finançais par des petits boulots, tout en poursuivant de brillantes études scientifiques. Ce qui m'attirait, c'était l'idée de défricher, d'être pionnière, de découvrir des univers inconnus jusqu'alors. Je me projetais dans toutes sortes de destins. Plus tard, j'explorerais le cerveau humain, le génome, des sites archéologiques, des sommets montagneux jamais atteints, les profondeurs des océans, la biodiversité infinie des forêts tropicales. L'espace, le rêve ultime. Si je suis généraliste aujourd'hui, j'ai à l'époque mené de front mon doctorat de médecine et une maîtrise d'astrophysique. Car oui, je rêvais de médecine et d'étoiles. Dans les années 1990, si la présence des femmes parmi les astronautes ne s'était développée que modestement, le vol de la première française, Claudie Aigneré, m'avait conforté dans la possibilité de l'espace. Alors je m'y étais accrochée. Mais un soir, lors d'une fête dans une école d'ingénieurs, je suis tombée dans les bras aimants, enveloppants, du très sérieux et terriblement rassurant François. Quelques mois plus tard, j'étais enceinte, ce qui n'était absolument pas prévu. Je ne voulais pas d'enfant, en tout cas pas tout de suite. Mais lorsque j'ai découvert que j'attendais des jumeaux, j'ai été bien plus ébranlée que je ne l'imaginais. Moi qui avais une peur panique de reproduire le schéma de désertion de ma mère, voilà qu'un chemin radicalement différent s'offrait à moi. Puisqu'il y aurait deux enfants, puisque François serait à mes côtés, mon existence serait forcément différente de celle de ma mère. Alors j'ai décidé de garder mes jumeaux. Je pensais parvenir à être une mère aimante et présente tout en poursuivant mes rêves d'espace. Mais astronaute n'est pas un métier comme les autres. Le recrutement ne s'effectue qu'une fois tous les 10 ou 15 ans. Lors de la sélection de l'Agence spatiale européenne en 1992, j'étais trop jeune pour me porter candidate. Et pour celle de 2008, c'était devenu tout bonnement impossible. En 2002, je suis tombée enceinte de nouveau, malgré la pilule. À la loterie de la fertilité, j'avais encore gagné. J'étais épouvantée à l'idée qu'il s'agisse de jumeaux cette fois encore. Et si tel avait été le cas, j'aurais sans doute avorté. Élever deux paires d'enfants à 3 ans d'intervalle me paraissait insurmontable. Michael est né le 6 juillet 2003. Je l'ai tout de suite trouvé beau. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai dite à François qui pleurait d'émotion, sa tête contre la mienne. La vie à cinq a commencé, exténuante. Mais lorsque je regardais mes 3 enfants endormis, je ne pouvais m'empêcher de me répéter à quel point j'avais une chance insolente de les avoir. Une famille idéale. Ma famille. Un jour d'octobre, Michael a attrapé un rhume qui s'est transformé en bronchiolite. Rien de bien méchant, même si les séances de kiné respiratoire étaient une vraie douleur pour moi. J'avais sans cesse l'impression qu'on allait lui casser les côtes, qu'on allait me le briser. Et puis, je me suis habituée. Il a bien fallu parce qu'après 3 semaines, la bronchiolite n'est pas passée. Avec le recul, je sais aujourd'hui que j'ai été dans le déni de diagnostic tout au long de ces semaines. Je suis médecin. J'avais bien remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai refusé de voir les signes. Il a fallu l'insistance du kiné et de François pour que je me décide enfin à aller consulter un pneumologue à l'hôpital de la Timone à Marseille. Cet homme a ausculté Michael longuement et j'ai vu monter dans son regard une lueur furtive, mélange de tristesse et de devoir. Une lueur qui signifiait « Préparez-vous à un séisme ». Il nous a prescrit une batterie d'examens complémentaires. Et au bout de quelques jours, le couperet est tombé sur mon petit ange. Mucoviscidose. J'ai observé le médecin, son air grave, ses traits tirés. J'ai regardé Michael qui babillait, insouciant, dans son landau. C'était impossible. Mon fils était en parfaite santé. Il allait bien. Il avait une simple bronchiolite. Le pneumologue se trompait. Je ne me permettrai pas de vous annoncer cela sans en avoir la certitude absolue. Je suis désolée. J'ai cherché le regard de François. J'aurais voulu qu'il hurle, qu'il gifle ce charlatan qui employait devant nous, et pire encore, devant notre fils, des mots terribles, des mots porteurs de désespoir et de mort. Mais François ne réagissait pas. Il se contentait d'observer Michael sans rien dire. Le médecin a répété « Je suis désolée ». Et mon monde s'est effondré. J'ai pris Michael dans mes bras, je l'ai serré contre mon cœur. Il était si vivant. Comment imaginer une seule seconde ce mal qu'il rongeait déjà, à tout juste 3 mois? Bien sûr, les questions se bousculaient dans ma tête. Des questions aussi inconcevables qu'ignobles. Est-ce ma faute? Pourquoi lui? Pourquoi nous? Combien de temps va-t-il vivre? Comment trouver la force d'élever un enfant condamné? Les réponses viendraient bien assez tôt. Ou ne viendrait pas. J'ai fermé les yeux, espérant que rien de tout ça n'ait jamais existé. Lorsque je les ai rouverts, Michael souriait. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Pendant 15 ans, mon quotidien a été dicté par les besoins de mon fils cadet. C'est à l'hôpital que j'ai rencontré celle qui ne se lasse pas de me secouer avec son humour et sa verve féroce. Bintou élevait seul un garçon, Hassan, lui aussi atteint de mucoviscidose. Nous avons sympathisé au gré des pauses café et nos vies parallèles ont été rythmées par les rendez-vous qui regonflent d'espoir et les annonces qui plongent dans des abîmes de détresse. Bintou est devenue, au fil des années, ma plus proche amie. J'étais à ses côtés lorsque son fils est mort, 4 ans avant le mien. Bien sûr, il y a eu beaucoup de bas. Mais il était fort, mon fils. Il parlait d'avenir, même s'il en connaissait le caractère hypothétique. Et du haut de son jeune âge, il m'a appris une chose essentielle que j'ai trop tendance à oublier. Puisqu'on ne peut savoir ce que demain nous réserve, il faut profiter de chaque instant qui nous est offert. Un jour de juillet 2018, après des mois de lutte et l'attente d'une greffe qui ne viendrait pas, Michael, mon tout petit garçon, s'est éteint. Et une partie de moi avec. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. Nous l'avons accompagné jusqu'au bout. Ensemble, tous les 5. Quelques minutes avant qu'il parte, je lui caressais le front. Et nous chantions et nous sourions. Quand les machines se sont arrêtées, je l'ai embrassé, serré contre moi une dernière fois. Cette dernière fois qui me rappelait la première, lorsqu'on l'avait posé sur mon ventre 15 ans auparavant. Du jour au lendemain, ce qui m'avait tenu debout toutes ces années n'existait plus. Mon quotidien s'est allégé, mais l'absence de Michael m'a plongé dans une profonde dépression, aggravée par la solitude. Valentina et Neil venant d'obtenir leur bac, ils ont quitté le nid 2 mois plus tard pour mener à bien leurs études. Quant à François, notre couple s'était progressivement transformé en une alliance raisonnée, sans même que nous en ayons parlé. Aucun de nous ne souhaitait disloquer la famille tant que Michael était là, mais notre séparation était une évidence. Après avoir été un amoureux, une épaule sur laquelle me reposer, un compagnon de lutte, de joie, de drame, un père admirable. François est parti se reconstruire loin. Je ne dis pas que c'est facile pour lui, pas du tout. Mais il a sans doute compris bien avant moi qu'il allait lui falloir écrire un nouveau chapitre de sa vie. Aujourd'hui, mes jumeaux, mes oiseaux inattendus, ont 21 ans. Valentina est en école de commerce à Barcelone. Neil suit les traces de sa mère en étudiant la médecine à Lyon. Et moi, dans tout ça, eh bien, je ne vivais plus vraiment, jusqu'à cette soirée d'anniversaire qui a ouvert une sacrée brèche en moi. Une toute petite lueur, une projection vers le futur, la première en 3 ans. Un « et si » minuscule. Et si je passais à l'étape suivante? J'ai acheté les bouquins des astronautes Jean-François Clairvoy et Samantha Cristoforetti. J'ai visionné Gravity, Interstellar, Apollo 13... De quoi se coller une peur bleue de partir dans l'espace. Mais des paysages si grandioses qu'ils n'en demeurent pas moins fascinants. L'Agence spatiale européenne avait reçu 8000 candidatures en 2008. Près de 23 000 ont été soumises cette année. Tout ça pour recruter au final 4 astronautes. Moins de 0,02% de chances de réussite, donc autant jouer au loto. Je ne prétends pas aller au bout. Mais j'espère passer au moins une étape. Ce serait déjà un succès en soi. Il se murmure que pour la phase suivante, celle des tests à Hambourg, un petit millier de personnes pourraient être convoquées. J'ai encore du mal à me l'avouer. Je crois qu'au-delà de la promesse faite à mes 3 enfants, tout ça me fait terriblement envie. Pas pour la réussite elle-même, non. Pour l'exploration, pour l'aventure, pour le rêve de gamine. Il y a quelques jours, Neil m'a envoyé un lien vers un groupe de discussion sur lequel plusieurs centaines d'aspirants astronautes issus de toute l'Europe échangent des conseils, des doutes, des espoirs. Je ne sais pas si j'ai bien fait de cliquer, parce qu'en lisant le profil de certains candidats bardés de diplômes et surentraînés physiquement, il y a de quoi être démoralisé. Toujours est-il qu'en me baladant sur ce forum, j'ai saisi une chose. Dans l'espace personnel de chaque participant sur le site de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, la date mentionnée pour l'obtention des résultats est le 18 juin. Mais quand on est choisi pour poursuivre l'aventure, cette date change subitement. Alors depuis que je sais ça, eh bien je fais comme tout le monde, je me connecte tous les jours. Chaque matin, je sens un frisson me parcourir le corps lorsque la page s'affiche. Et chaque matin, la date reste la même. Le 26 juin, la date n'a toujours pas bougé. Neil me dit que certains ont vu la date changer après. Mais moi, je sens bien que c'est mort. The end
Exit la daronne qui voulait marcher sur Mars et qui est restée coincée au 18 juin. Je sais que je n'avais aucune chance, mais je ne peux m'empêcher de ressentir un pincement. Le 27 juin, je décide d'arrêter de me connecter après une dernière tentative qui signera mes adieux à ce site déprimant. Lorsque la page s'affiche, je m'étouffe avec mon café. La date mentionnée est le 8 octobre. J'appelle Neil, paniqué car aucune information ne m'est parvenue. Il me conseille de patienter encore quelques heures, mais il est certain que c'est bon signe. Au cabinet, la verrue plantaire de M. Guérin et le 12e Covid imaginaire de Mme Marino ne me passionnent guère. Je passe mon temps à rafraîchir mes mails frénétiquement. Mais c'est seulement 3 heures plus tard que je vois apparaître un « personnel et confidentiel ». Tandis que je rédige l'ordonnance pour soigner la crise hémorroïdaire de mon dernier patient de la matinée, je suis au bord de l'apoplexie. Je me précipite sur mon ordinateur. J'ai l'impression que je ne peux pas consulter ce mail directement, que son contenu va me brûler la rétine. Alors je plisse les yeux et je lis à travers mes paupières à demi-closes. Oh, my God! Je pousse un cri qui résonne probablement dans tout l'immeuble. Je relis le mail encore et encore, mais les mots sont les mêmes. Alors je me dirige vers le lavabo de mon cabinet, je bois une gorgée et me passe un coup d'eau sur le visage. Lorsque je me redresse, je reste un temps en arrêt devant le miroir. La femme qui me fait face me semble différente. Elle sourit, et son sourire balaye les ombres. Cette femme-là, cette figure familière disparue depuis si longtemps, je la reconnais. J'aimerais tellement la retenir. Alors cette femme rassemble ses esprits, puis rédige fébrilement un SMS commun à Bintou, Valentina et Neil. I fucking am the next Thomas Pesquet, direction Hambourg. Puis un autre adressé à son père. Fais péter la balade des gens heureux. C'est cette femme-là qui se regarde de nouveau dans le miroir et qui se met à rire nerveusement comme si une digue venait de céder. Comme si elle se sentait fière. Un peu. Heureuse. Peut-être. Espace, ton univers impitoyable. La température sur Vénus est de 460 degrés Celsius, chaude ambiance. Il faut 165 ans à Neptune pour tourner autour du Soleil. Une figurine Buzz l'éclair a réellement passé 15 mois à bord de la Station spatiale internationale. Bien joué, Buzz.